Olivier Py, Bertrand de Rouffignac de retour à Avignon pour nous présenter ce film que vous avez tourné d'ailleurs à Avignon, le Molière imaginaire. Ce film, Olivier, vous l'avez écrit pendant le confinement. Par rapport à Ma jeunesse exaltée, qui a été la dernière création que vous avez présentée à Avignon, est-ce que ce sont deux projets que vous avez menés de front ?
Non, pas du tout, parce que j'ai vraiment écrit le film pendant le confinement, puis préparation, production du film, et ensuite j'ai écrit Ma jeunesse exaltée.
Pour Ma jeunesse exaltée, vous avez beaucoup travaillé le personnage d'Arlequin, vous vous êtes beaucoup documenté, c'est ce que vous m'aviez dit à l'époque. Est-ce que vous avez pratiqué de la même manière avec Molière ?
Oh là là, oui, bien sûr, bon, je connaissais un petit peu Molière, mais pas autant qu'on peut l'imaginer. Un homme de théâtre ne connaît pas forcément l'historique de Molière. Et puis j'avais vécu à Avignon, surtout dans une maison qui avait été fréquentée par Molière. Donc depuis quelques années, j'étais revenu à Molière et aux biographies de Molière. Il n'y a pas non plus une bibliothèque entière à lire quand on s'intéresse à Molière et aux sources historiques. Donc ça a été vite parcouru et puis j'ai commencé à rêver.
Est-ce que c'est Molière ou est-ce que c'est le personnage de Baron qui vous a incité à écrire ce Molière imaginaire ?
C'était le Molière mourant, un Molière qui voyait défiler sa vie, et il se trouve que dans la dernière année, il a eu ce lien amoureux sans doute avec Michel Baron. Donc j'ai découvert cet autre personnage qui n'est pas très connu du grand public, qui s'appelle Michel Baron. Mais alors il était connu du grand public sur la fin du XVIIe siècle. Ça a même été la superstar de la fin du XVIIe siècle, la superstar de la première comédie française. Bertrand de Rouffignac est venu m'aider à finir le scénario, à le relire, à faire une 48e version. Comme toujours, les scénarios, c'est un millefeuille. On retravaille. Et heureusement, je l'avais pour qu'on essaye les scènes, pour qu'on assouplisse la langue, pour qu'on trouve cette langue qui n'est ni archaïque, c'est pas la langue du XVIIe exactement, mais qui n'est pas non plus anachronique. Alors Bertrand m'a aidé et puis ensuite on s'est dit qu'il était parfait pour jouer le rôle de Michel Baron.
On a travaillé surtout sur les structures du scénario en soi, parce que je pense qu'Olivier n'a pas besoin spécialement pour écrire des dialogues bien affûtés, mais pour ce qui est de la structure scénaristique, c'est un travail un peu particulier, spécifique au cinéma. Là, il s'agissait justement de pouvoir traiter le plan séquence dans la continuité dialoguée et d'arriver à lui donner du rythme et du dynamisme pendant la lecture du scénario, mais aussi pour nous permettre de nous projeter sur ce que serait le tournage. Donc il y avait aussi tout un travail de réflexion sur l'espace même du théâtre du Palais Royal, sur comment on situe à l'intérieur de ça. On a travaillé Olivier aussi sur plan. Je me souviens à un moment donné sur une version du scénario pour essayer de nous repérer nous-mêmes dans le théâtre du Palais Royal, voir comment est-ce qu'on pouvait arriver à situer à l'intérieur, à voyager, et nous-mêmes se faire le chemin qui serait le chemin de la caméra au moment de l'écriture. Ça a été un vrai travail de fond quoi, qui a participé aussi à la structure du scénario elle-même.
Le plan séquence, c'était pour retrouver le rythme du théâtre un peu ?
Non, c'était pour tenter de faire vivre aux spectateurs l'inéluctabilité de la fin, qu'on connaît, puisqu'on sait que Molière est mort à la fin de cette représentation. C'est une sorte d'apnée pour le spectateur, il n'a aucun moyen d'échapper au rythme qu'on lui impose, en quelque sorte, puisque le temps réel et le temps du film se recouvrent. J'avais quelques modèles, c'est vrai que L'Arche russe de Sokourov était pour moi une étoile au ciel. En tant que cinéphile, c'est un des films que j'ai préféré. Je me suis toujours dit que si je voulais un jour faire un film qui soit aussi patrimonial, qui raconte aussi l'histoire de la France et de la langue française, je ferais aussi un film en plan séquence. Et puis Molière s'est imposé. Mais comme le dit très bien Bertrand, on était dans le Palais Royal. Reconstituer le Palais Royal, ça a été l'aventure du film. Et donc, on pouvait imaginer de tourner en plan séquence. C'était cohérent.
Ce qui est assez extraordinaire dans ce plan séquence qui dure une heure et demie, c'est qu'on voyage dans un théâtre, la coulisse, les cintres, le plateau, la salle également. Mais on voyage aussi dans la tête de Molière, puisque notamment lorsqu'il va dans le sous-sol, là, tout à coup, on est dans les fantasmes ou dans les souvenirs de Molière. C'est-à-dire qu'il y a un côté carrément psychique.
Oui, c'est très vrai. Et dès qu'on a pensé plan séquence, c'est-à-dire au tout début du scénario, on voulait pas non plus un plan séquence qui ne soit qu'horizontal. On voulait aussi pouvoir descendre et monter et explorer les dessous du théâtre ou bien les cintres du théâtre. Et en général, ça fait une petite rupture spatio-temporelle. Et là, elle trouve des fantômes. Madeleine, qui est la femme qui l'a faite, littéralement, qui est morte un an plus tôt. Son père, qui est mort quelques années plus tôt. Ça lui permet de revenir en arrière, de voir sa vie défiler en quelque sorte. Bien évidemment, on n'a pas tourné ça avec un seul plan séquence. On aurait eu une heure et demie de tournage, ça aurait été pas trop cher à produire. Mais en plusieurs plans séquences que Luc Pagès, notre chef op, a trouvé moyen de raccorder sans qu'on voit aucune couture.
Bon, c'était d'arriver à redynamiser le scénario en permanence pour parvenir à conquérir les fantasmes, le passé de Molière et en même temps suivre l'action de 7h30 avant sa mort. Et d'arriver à coaguler tout ça dans un plan séquence qui paraisse cohérent. Je pense qu'au moment de l'écriture, on avait des scènes, des séquences qui étaient issues de certaines biographies ou de certaines œuvres postérieures à la mort de Molière qui nous avaient intéressés, qui nous avaient inspirés, qu'on avait envie d'utiliser. Et donc il s'agissait d'arriver à prendre chacune de ces scènes, à essayer de déterminer lesquels on voulait placer, lesquels on voulait raconter, comment les articuler à l'intérieur de 7h30, tout en gardant du dynamisme et tout en parvenant à tirer le fil jusqu'au moment de la mort de Molière.
Il y a un personnage qui m'a beaucoup intrigué dans le film. Je crois d'ailleurs que c'est le seul qui ne soit pas fardé. C'est le personnage interprété par Jean-Damien Barbin. Je crois que c'est Chapelle. Il représente toujours une forme de réalité. C'est toujours quelqu'un qui a les pieds sur terre et la tête sur les épaules, j'ai envie de dire.
Il y en a deux qui ne sont pas fardés. C'est Chapelle, d'abord parce qu'il n'est pas... Et Michel Baron, parce qu'il ne joue pas. Et certains valets qui ne sont pas fardés.
Hein, parce qu'à un moment, il est plein de lait, c'est pour ça.
Ah oui, d'accord.
Oui, il est dans son bain, donc il a perdu son maquillage. C'est sauf qu'il ne joue pas. C'est d'ailleurs un mystère biographique. On ne sait pas pourquoi Baron était là, alors qu'il ne jouait pas dans le malade imaginaire. Il n'est pas dans la distribution. Chapelle, qui est joué par Jean-Damien Barbin, est un personnage étrange. C'est un ancien amant de Cyrano. Je le vois là, sur le pavé, passer rue de la Pérolerie, parce qu'ils ont vécu longtemps à Avignon. Puis je pense qu'il aidait Molière à écrire. Il vivait avec Molière dans la maison d'Auteuil. Il y a une de lettres où il dit « j'ai donné un acte à Molière » et puis Molière ne l'a pas trouvé bon. Donc je pense que Molière utilisait Chapelle, comme font les scénaristes aujourd'hui à Hollywood. Ils se mettaient à plusieurs pour raconter une histoire.
Il y a des phrases dans la bouche de Molière, Laurent Lafitte, que j'ai souvent entendu dans la bouche d'Olivier Py, du style « je ne suis jamais aussi profonde que dans mes comédies », par exemple. Ça, je vous l'ai souvent entendu dire. Et là, vous l'avez mis dans la bouche de Molière. C'est-à-dire que c'est vraiment Molière revu et corrigé par vous. Souvent, on a l'impression que c'est vous, quand il dit, par exemple, « je crains les échecs, je crains la critique », ça, c'est vous. C'est pas vraiment Molière.
Tu trouves ? Évidemment, on ne peut pas faire une biographie sans se projeter dans le personnage qu'on choisit. Évidemment, j'ai quelques points communs avec Molière, dont d'avoir vécu quelques années à Avignon. Et puis l'autre point commun, c'est d'avoir fréquenté ce monde fou et merveilleux du théâtre pendant 40 ans. J'étais dans une situation très particulière, parce que quitter Avignon a été une très grande souffrance pour moi. Et j'avais l'impression que tout était fini. Donc je me suis projeté dans ce Molière, qui est le Molière mourant, le Molière de la fin.
Il y a aussi une analogie qu'on peut faire avec du monde de théâtre. Il n'y a pas d'analogie forcément à tirer entre l'auteur Molière, l'auteur Olivier Py, le metteur en scène Olivier Py, le metteur en scène Molière, mais je pense que l'homme de théâtre, ce qu'il représente, la vie de troupe qui lui est associée, ça, il y a des contingences entre Olivier et Molière, j'en suis certain.
Alors justement, la troupe, alors j'ai retrouvé une partie de la distribution de Ma jeunesse exalté, Barami, Émilienne Gardeteuf, Bertrand de Rouffignac, évidemment Céline Chéenne, puis Philippe Gérard, c'était le compagnon des premières aventures. Puis bon, sans parler des monstres sacrés. Alors il y a trois dames étonnantes, Catherine Lachance, il y a Dominique Fro. Et il y a Judith Magre. Alors moi, personnellement, elles m'ont fait penser au personnage des Muppets. C'est-à-dire des personnages qui n'arrêtent pas de commenter ce qui se passe aussi bien dans la scène que dans la salle que sur le plateau.
Mais bien sûr, ce sont à la fois des parcs, un chœur classique. Et puis j'avais la chance d'avoir ces trois actrices absolument inouïes. Je n'avais jamais travaillé avec aucune des trois en tant que metteur en scène. Je leur ai fait cette proposition un peu folle. Ils se sont beaucoup amusés. Et puis on a une pensée pour Catherine Lachance qui nous a quittés peu de temps après le tournage et qui dit presque la phrase concluante du film dans la dernière scène. Elle dit « La vie est une farce et la mort aussi est une farce ». Et voilà, elle nous a quittés sur cette phrase.
Alors, Laurent Lafitte, il était trop sexy au départ pour incarner Molière ?
Oui, je trouve qu'il était beaucoup trop sexy. Je lui ai mis un petit peu de maquillage quand même. Surtout, je ne pensais pas qu'il avait l'âge de Molière au moment où il est mort. Même si, évidemment, les âges à cette époque-là et les âges de nos jours ne sont pas exactement dans la même hiérarchie. Pour moi, il était un peu trop sexy parce que je n'ai jamais pensé Molière comme un personnage sexy. Molière, pour moi, ça a toujours été, au contraire, Monsieur Tout-le-Monde. Et c'est ça qui a été sa force. Tout le monde a pu se projeter sur lui. Mais enfin, dans le portrait qu'en fait Mignard, qu'il a dû faire à quelques mètres d'ici, si ce n'est même à la Mirande, je trouve qu'il y a une ressemblance incroyable. J'ai tout de suite pensé à Laurent pour cette ressemblance, ce regard un peu triste, mélancolique, mais cette bouche rieuse. Il fallait quelqu'un qui puisse jouer les scènes de comédie et qui en même temps puisse nous faire croire à la mort de Molière. Bref, j'avais pas de plan B, alors je lui ai proposé le scénario à, je ne sais pas, à 10h du matin. Il m'a appelé le soir pour me dire « c'est bon, il faut le faire à tout prix ». Et on l'a fait.
La scène du poumon avec Laurent Lafitte et Eva Rami, ça m'a rappelé un certain malade imaginaire que j'avais vu dans les années 90 à Cavaillon, mise en scène par Jean-Luc Lagarce. Un Molière en noir et blanc, je me souviens. C'était Bernard Bloch qui jouait le rôle du malade. C'est une citation, parce que c'est le seul Molière que vous ayez joué, en fait.
C'est plus qu'une citation. Mais j'avais quel âge ? Mais j'avais 25 ans, hein, quand je faisais ça, quand je jouais les jeunes premiers. Maintenant, quand je dis que je jouais les jeunes premiers, les gens rigolent. Mais c'était une aventure bouleversante, puisque Jean-Luc était mourant et qu'il pensait véritablement que ce serait son dernier spectacle. Il se promenait dans toute la France, et ce malade imaginaire et sa troupe, dans des conditions médicales complètement démentes. Et on pensait vraiment qu'il allait claquer tous les soirs. Je me suis toujours dit qu'il fallait que je raconte cette histoire. Dans une certaine mesure, je l'ai racontée, mais en retournant à la source. Mais elle a été très forte, évidemment, dans ma jeunesse, qui a été marquée par le sida. Donc, quand je me suis remis à écrire ce malade imaginaire, qui est un Molière imaginaire, j'ai repensé à notre malade imaginaire et à notre folle aventure. La troupe, la vie des tréteaux, la splendeur du théâtre et en même temps la misère du théâtre. Tout ça, je l'ai vécu tellement dans ma chair, c'est tellement mon histoire. C'est là que je suis né.
Quand vous étiez directeur du Festival d'Avignon, vous aviez pris très clairement parti au moment de certaines séances électorales contre certains partis. Et à la fin du film, la dernière scène avec le chien, je la trouve absolument terrifiante. Parce que le chien, d'abord, il n'est pas du tout aimable. Et on a l'impression que des chiens comme ça, ils sont à notre porte.
Alors là, c'est peut-être un peu extravagant comme lien entre les deux. Moi, j'aurais aimé pouvoir faire un film dans lequel il n'y a pas de sujets sociétaux ni politiques.
On sort de la projection, on est un peu glacé par le chien.
Oui, c'est peut-être la porte des enfers ou c'est peut-être le cri de l'anonymat. Je crois qu'on est glacé aussi parce qu'il s'adresse à la caméra et qu'au fond, il s'adresse à nous. Mais alors l'autre sujet, la montée du Front National et particulièrement dans le Sud, je pense que je redirai les mêmes choses et que je referai les mêmes choses, si ce n'est que 10 ans après, la dédiabolisation soi-disant du Front National, c'est tellement banalisé que ça paraît très complètement fou. Quelqu'un qui dit, moi, je ne travaillerai jamais avec eux, je claque la porte, je ne travaillerai jamais avec eux. Aujourd'hui, je pense qu'on ne serait pas très nombreux à dire ça.
Bertrand Rouffignac, il y a une grande différence entre Olivier Py, le metteur en scène de théâtre, et le réalisateur, le cinéaste.
Sur le plan du travail au plateau, vous voulez dire?
Ouais.
Non, pas essentiellement.
Pas un piano qui traîne quelque part où de temps en temps il va jouer?
Si, bien sûr, entre deux prises. Entre deux prises, on ne peut pas s'en empêcher. On y finit forcément entre deux prises. De toute façon, dès qu'il a un moment à attendre, il ne peut pas s'en empêcher. Il y va et il nous chante une chanson. Donc. Non, c'était le même plaisir pour moi de travailler avec Olivier sur ce film que de travailler avec lui au plateau, au théâtre. D'ailleurs, assez bouleversant la manière qu'on a eue d'être dans une continuité de travail entre Ma jeunesse exaltée qui se tenait 4 mois plus tôt et décembre 2023, on a tourné ce film. Et puis c'était retourné à Avignon, c'était retourné à la Fabrica, c'était retourné dans cette ville où on a pu vivre cette aventure extraordinaire de Ma jeunesse exaltée en juillet 2022. Il y a eu une continuité étrange, c'était l'ordre de l'évidence, le tournage de ce film. C'était des rencontres formidables, c'était une aventure chaque jour, c'était parfois extrêmement stressant, extrêmement dangereux, parce que le plan séquence nous impose une concentration immense et être au cordeau, toute l'équipe de comédiens, toute l'équipe technique, la décoration avec Pierre-André Weitz qui a fait un travail extraordinaire pour reconstituer le stade du Palais Royal avec extrêmement peu de moyens, c'était une magie folle. Moi, j'ai trouvé ça extraordinaire. Et puis voilà, Olivier, j'ai laissé une main de maître une fois de plus.
Je vous signale pour terminer que c'est comme chez vous. Hein. Vous avez fait un film à la bougie, on a fait une interview à la bougie.
Ah oui, on a consommé presque 1000 bougies par jour. Techniquement, c'est pas très compliqué parce que les caméras sont très sensibles aujourd'hui. Quelquefois, on avait même trop de lumière, on soufflait sur les bougies. Mais enfin, on s'est beaucoup, beaucoup brûlé les doigts et les épaules. Ça nous tombait souvent sur la tête.
C'est